Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Projet d'élargissement dans les Balkans, partenariat oriental avec les pays du Caucase qui vient de fêter ses 10 ans. L'Europe a depuis longtemps compris que sa stabilité dépendait aussi de celle de ses voisins les plus proches. Et autant dire qu'avec la politique du fait accompli du président russe, ce n'est pas gagné. C'était il y a 6 ans. La révolution pro-européenne de Maïdan en Ukraine provoquait un conflit armé dans le Donbass, soutenu par l'armée russe. Moscou annexait ensuite la péninsule de Crimée. Retour à Kiev le 1er mars 2014 avec notre envoyée spéciale Anastasia Bekio.
Les discours enflammés se succèdent de la tribune de la place de l'Indépendance pour dénoncer l'agresseur russe incarné par Vladimir Poutine. Quelques centaines de personnes écoutent, l'air grave. Parmi elles, cet habitant de Kiev qui se dit très inquiet.
La Russie autorise de manière très cynique son armée à intervenir sur le territoire de l'Ukraine. Moscou montre au monde entier son vrai visage. La Russie veut retrouver l'influence qu'elle a perdue et c'est pourquoi elle fait une démonstration de force. Malheureusement, elle choisit l'Ukraine pour faire cette démonstration.
Antonina, originaire du sud de l'Ukraine, porte une pancarte. Poutine reprend des provocateurs de Crimée.
Il peut se produire une véritable catastrophe, une vraie guerre en plein cœur de l'Europe, au centre géographique de l'Europe. Il faut que les États-Unis, l'Europe et toute la communauté internationale nous soutiennent. Pas forcément avec des baïonnettes et des bombes, mais je pense qu'ils ont des leviers. Je pense que pour ça, les leviers ont des leviers.
L'Ukraine, c'est l'Europe, scandent les manifestants qui espèrent encore qu'il reste une petite place pour un règlement pacifique de la crise. Boris Vichit, Anastasia Bekio, Kiev, RFI.
Aujourd'hui, les pourparlers de paix ont repris péniblement lors d'un sommet en décembre à Paris. La Russie est toujours sous le coup de sanctions économiques européennes, mais la Crimée reste russe et le Donbass sous le contrôle des indépendantistes proches de Moscou. Alors peut-on dire que la politique du fait accompli fonctionne pour Vladimir Poutine ? C'est la question que j'ai posée à Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut français de géopolitique et associé à l'Institut Thomas More. Pour lui, la victoire du président russe n'est qu'apparente.
C'est sûr que la Crimée, elle est bien passée sous domination russe et puis que bien des personnes en Occident voudraient s'en accommoder, y voyant une sorte de monnaie d'échange pour la stabilisation du reste de l'Ukraine. Le Donbass, il est bel et bien sous le contrôle des séparatistes qui sont contrôlés eux-mêmes par Moscou. Maintenant, si on change le niveau d'analyse, cette politique d'annexion dans le cas en tout cas de la Crimée et de déstabilisation à partir du Donbass, ça a provoqué un retournement géopolitique de l'Ukraine, alors que l'Ukraine était considérée comme la pierre angulaire du projet d'union eurasienne, qui était le grand projet de Vladimir Poutine. Il l'avait annoncé au début de la décennie 2010, et puis cette union eurasienne, elle a vu le jour en janvier 2015, donc il y a 5 ans maintenant, mais ça a été sans l'Ukraine. Et le fait est que l'Ukraine, aujourd'hui, elle est pro-occidentale. Alors maintenant, si on élargit encore le spectre, la focale, cette politique agressive de la Russie, elle a provoqué un retour en force de l'OTAN et de ses États membres. Jusqu'au début des années 2010, l'OTAN avait tendance à négliger les frontières orientales, estimant qu'il n'y avait pas de véritable menace, de menace constituée. Et bon, tous les débats étaient sur l'Afghanistan, la mondialisation de l'OTAN, le hors-zone, etc. Mais à partir de 2014-2015, les États membres de l'OTAN se sont mis d'accord pour prendre des mesures de réassurance, pour renforcer la présence militaire des différents pays membres de l'OTAN. Les États-Unis ont réexpédié des forces, alors qu'en 2010-2011, ils avaient retiré leur dernier blindé d'Europe. Donc il y a quand même eu une inversion du cours des choses.
L'Ukraine qui désormais échappe à la mainmise russe, donc tout comme la Géorgie. Pourquoi rencontré la coopération entre l'UE et les six pays de l'ex-URSS, la Russie a mis sur pied l'Union économique eurasiatique. Le président français a beau multiplier les tentatives de rapprochement avec Moscou, le Conseil de l'Europe à Strasbourg a même réintégré la Russie. Rien n'y fait. Vladimir Poutine regarde à l'Est et plus particulièrement vers Pékin. Direction l'Orient donc, plutôt que l'Occident. Symboliquement, les îles Kouriles font partie de cette politique. L'archipel situé au large de l'extrême-orient russe est administré par Moscou depuis 1945, mais le Japon revendique toujours sa souveraineté sur quatre de ces îles. Vladimir Poutine et Shinzo Abe se sont entretenus à ce sujet à de multiples reprises, mais les deux parties campent sur leur position. Là encore, un conflit non résolu. Reportage d'Étienne Bouche sur la plus grande île de cet archipel.
Les rafales de vent sont si puissantes qu'elles façonnent les courbes des mélèzes. Vivre sur l'île volcanique d'Iturup, c'est s'habituer à un climat particulièrement inhospitalier. Ses 6000 habitants en oublient presque le sifflement des nuits de tempête. Iturup vit essentiellement de la pêche. Vivant à 29 ans, il travaille à l'usine de poissons de Kitovi, l'un des principaux employeurs de l'île. Il y a 8 ans, il a quitté la grande île de Sakhaline pour s'installer ici.
On m'a fait venir au tout début, quand l'usine cherchait de la main-d'œuvre. Après mon service militaire, j'avais terminé ma formation technique et suis directement venu travailler comme pêcheur de catégorie 2. Et désormais, je suis passé spécialiste, ce qui est une très bonne évolution de carrière. Si j'étais resté sur Sakhaline, une telle promotion aurait été difficile à obtenir.
L'usine a reçu cet été la visite du Premier ministre Dmitri Medvedev. Le pouvoir russe a fait du développement de l'Extrême-Orient l'une des priorités de sa politique intérieure. Un développement qui, dans le cas des îles Kouriles, passe par un meilleur accès à ces territoires isolés. Iturup a des routes goudronnées depuis une dizaine d'années et un aéroport civil y a été inauguré en 2014. En dehors de ces améliorations logistiques, l'essor économique souligné par les autorités ne saute pas aux yeux. L'île peine à attirer la population malgré les mesures incitatives héritées de l'Union soviétique. Vladimir Dektaryov, chef de l'administration locale.
Officiellement, nous sommes rattachés au territoire du Grand Nord, ce qui signifie que nous bénéficions des mêmes avantages sociaux. 60 jours de congé, prise en charge de tous les frais logistiques en cas de recrutement, avec mise à disposition d'un logement, mais aussi un système de majoration progressive du salaire. 10% au bout de 6 mois, puis 10% chaque année. Tous ces avantages sont appliqués. Bien sûr, il est difficile d'attirer de la main-d'œuvre dans certains secteurs, notamment l'aménagement urbain et les services communaux.
Quand il s'agit d'évoquer l'économie de l'île, l'administration embraye sur le potentiel touristique. C'est le sujet préféré des officiels en Russie, parce qu'il est parfaitement consensuel et qu'il permet de parler pour ne rien dire. Sur Iturup, le flux touristique est encore anecdotique. Mais les autorités entendent faire de cette île au paysage exceptionnel une destination de premier plan. À une heure de vol, l'île de Sakhaline est le cœur de cette région insulaire. Sa capitale, Yujno-Sakhalinsk, a gardé peu de traces de son histoire japonaise. Pendant 40 ans, elle fut rattachée à la préfecture d'Hokkaido avant d'être reprise par les soviétiques en 1945. Le Japon a abandonné ses prétentions sur Sakhaline, mais n'a pas digéré la perte des îles Kouriles. À Yujno-Sakhalinsk, la rue Gorki pourrait être une allégorie de la Russie actuelle. Trois édifices imposants y ont été récemment construits l'un à côté de l'autre. Un musée consacré à l'histoire russe, une cathédrale de 77 mètres de hauteur et le mémorial de la Victoire. Un musée racontant la victoire de l'armée rouge sur les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour Yuri Filipenko, son directeur, l'appartenance des îles Kouriles à la Russie est non négociable.
Mon épouse est née dans les îles Kouriles. Je ne peux donc en aucune manière imaginer un autre scénario. Nous en sommes à la troisième génération de Russes vivant sur ces territoires. Les îles Kouriles et la partie sud de Sakhaline, c'est le coup qu'a fixé l'Union soviétique dans son engagement militaire contre le Japon. C'est le prix de la guerre. Comment peut-il être renégocié? La carte du monde a été définie à l'issue de la guerre. Cela s'est fait dans la douleur et il ne peut en être autrement.
En Russie, on ne plaisante pas avec la Grande Guerre patriotique, une page de l'histoire sacralisée par Vladimir Poutine. Si Nikita Khrouchtchev avait envisagé en 1956 une possible cession de territoire au Japon, l'idée n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Les Russes y sont largement hostiles. Certains l'ont d'ailleurs fait savoir en manifestant l'hiver dernier à Moscou. Oleg Kazakov, maître de recherche à l'Institut d'Extrême-Orient, explique que les îles Kouriles ont pour Moscou une importance stratégique.
Céder les quatre îles que revendique le Japon serait problématique dans la mesure où l'accès de la Russie à l'océan Pacifique serait bloqué par des îles appartenant à une nation étrangère. C'est ce que redoutent nos dirigeants qui répètent que ce transfert de souveraineté entraînerait l'apparition de bases militaires américaines aux portes de la Russie.
Si les deux pays ont des raisons de souhaiter la signature d'un traité de paix, ce spécialiste du Japon est néanmoins convaincu que la Russie restera sur sa ligne. En tout cas, tant que Poutine sera au pouvoir. Après la prise de la Crimée, toute cession de territoire serait perçue comme un aveu de faiblesse. Dans la région de Sakhalin, les autorités annoncent des célébrations d'envergure cette année à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire.
Asseoir son pouvoir en Orient, mais aussi regrouper des pays satellites autour de Moscou, c'est la grande ambition de Vladimir Poutine, qui recueille ainsi des bénéfices de popularité sur la scène intérieure. Mais ce n'est pas là la première de ses priorités, nous dit Jean-Sylvestre Montgrenier.
Il ne faut certainement pas voir dans cette politique une sorte d'instrument à visée purement intérieure. C'est-à-dire, en quelque sorte, on chercherait à distraire les Russes, à canaliser le mécontentement. L'essentiel, là, pour Vladimir Poutine et les siens, serait de se maintenir au pouvoir et la politique extérieure serait conçue dans cet objectif. À mon sens, chez Vladimir Poutine, qui a été sous-évalué, il y a une vision du monde qui peut sembler fruste, mais en tout cas qui est cohérente. Dans le cadre de cette vision du monde, il a des objectifs politiques, au sens éminent du terme, géopolitique, si l'on veut, porté par une grande stratégie. Il veut reconstituer une sorte d'URSS sur le plan géopolitique. Alors je dis URSS avec beaucoup de précautions. Il ne s'agit certainement pas de revenir purement et simplement à ce qu'était l'URSS autrefois, mais je dirais le soviétisme géopolitique sans le communisme à l'intérieur. L'idée, c'est finalement la doctrine de l'étranger proche. Et la doctrine de l'étranger proche, elle a été énoncée au début des années 90, c'est-à-dire une dizaine d'années avant que Vladimir Poutine arrive au pouvoir finalement. Donc il ne faudrait surtout pas penser que c'est uniquement inhérent à la personnalité de Poutine et de ses proches. Il y a certainement un consensus à l'intérieur de la Russie sur l'idée que finalement cette Russie devrait retrouver le contrôle direct ou en tout cas indirect de la plus grande partie de l'espace autrefois soviétique.
Une ex-URSS recomposée sans le soviétisme. La formule ne plaît pas tout le monde, au premier rang desquels le voisin biélorusse. Les deux pays parlaient pourtant au début des années 2000 de muer leur rapprochement en confédération. La lune de miel est terminée. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko revendique désormais son indépendance.
La Biélorussie, qui avait déjà refusé après 2008 de reconnaître la pseudo-indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, c'est-à-dire ces deux provinces géorgiennes qui ont été ôtées à la Géorgie en fait dès le début des années 90, et puis ça a été formalisé après la guerre des cinq jours en 2008. Donc Loukachenko a refusé ça, de même qu'il a refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée. Et à l'intérieur, alors il fait partie d'une alliance, l'Organisation du traité de sécurité collective, qui a été bâtie au début des années 90 autour de la Russie. Donc la Biélorussie formellement en fait toujours partie, mais refuse par exemple de concéder des bases à l'armée russe, et puis cherche, alors difficilement, ça sera certainement à scruter avec attention dans les années à venir et même dans les mois à venir, cherche à conserver le maximum d'autonomie, le maximum d'indépendance.
Puis il faut aussi parler de la Moldavie, un pays dont le président pro-russe doit composer avec un parlement dont la deuxième force est pro-européenne, des tiraillements symbolisés par un conflit gelé entre Chisinau et Moscou, la région de Transnistrie, région pro-russe, qui s'est autoproclamée indépendante. Les explications de Benjamin Ribou.
D'une superficie de seulement 4000 km², la Transnistrie est une étroite bande de terre qui ressemble à un Chili en miniature, flanquée entre l'Ukraine à l'est et le fleuve Nistre et la Moldavie à l'ouest. La Transnistrie, qui était une région moldave, est née sur les cendres de l'ex-URSS, car comme en Abkhazie et en Ossétie du Sud pour la Géorgie, ou encore le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, la Transnistrie est le résultat d'un conflit qui a éclaté avec la fin de l'Union soviétique il y a près de 30 ans. Ce conflit oppose à l'époque la toute jeune République de Moldavie, peuplée en majorité de roumanophones, et des séparatistes russophones appuyés par l'armée russe. La guerre, bien que relativement courte au printemps 1992, un peu plus de 4 mois au total, fait plus de 1500 victimes, la plupart côté moldave. La jeune République de Moldavie perd alors le contrôle de la Transnistrie après avoir échoué à régler le problème par la force. Depuis, la République autoproclamée de Transnistrie conserve de facto son indépendance vis-à-vis de Chisinau, la capitale moldave, mais les 500 000 Transnistriens vivent isolés. Ignorés par la communauté internationale, la République dépend entièrement du bon vouloir de Moscou. Les troupes du grand frère y stationnent toujours pour dissuader le voisin moldave, tandis que l'économie est entièrement sous perfusion russe. Un statu quo dont la Fédération de Russie semble se satisfaire, même si côté Transnistrie, on aimerait bien que Moscou les intègre à la Fédération russe. En 2014, l'espoir est ravivé avec l'annexion de la Crimée. La Transnistrie espère que la Russie l'annexera dans un même élan, d'autant que la Moldavie et l'Ukraine viennent de signer des accords d'association avec l'Union européenne, vu d'un mauvais œil par la Russie. Un leurre, Moscou n'a pas bougé d'un cil, signe sans doute que l'intégration européenne de Chisinau et de Kiev n'est plus franchement d'actualité, et n'inquiète guère Moscou. En attendant, la Transnistrie semble figée dans le temps, dans un état de ni guerre ni paix, et sans aucune perspective de développement économique. Quant à la République de Moldavie, amputée d'un huitième de son territoire avec ce conflit gelé, elle a beau rêver de l'UE, là aussi, ce n'est pour l'instant qu'un mirage.
La Moldavie qui a signé un accord d'association avec l'Europe, mais qui semble bien loin d'un début de négociation pour intégrer l'UE, tant la question de la corruption est endémique dans le pays. Du côté des Balkans, ils sont nombreux aussi les pays qui attendent leur tour, l'Albanie ou la Serbie pour ne citer qu'eux. Mais là encore, les questions de frontières instables inquiètent. La Serbie par exemple ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo, un peu plus de 20 ans après la guerre de 1999. Les deux ennemis négocient discrètement un possible échange de territoire pour faire la paix, au risque de déstabiliser toute la région. Simon Rico.
C'est un vieux serpent de mer qui est revenu sur le devant de l'actualité balkanique depuis le début de l'été 2018. Pour solder l'interminable querelle entre la Serbie et le Kosovo et parvenir à une paix définitive, il suffirait de procéder à un échange de territoire. Le nord du Kosovo, peuplé majoritairement de Serbes, serait rattaché à la Serbie qui, en contrepartie, se séparerait de la vallée de Preševo, petite zone à majorité albanaise contiguë au Kosovo. Depuis plus d'un an et demi, le sujet agite tous les Balkans, alors que l'on ne cesse d'annoncer la signature imminente de cet accord historique entre les deux voisins. Or, ce projet, soutenu surtout par les États-Unis mais auquel l'Allemagne s'oppose fermement, pose de sérieuses questions. Cette idée de frontière ethnique vient en effet remettre en cause plus d'un quart de siècle de diplomatie occidentale, promue à coups de milliards de dollars et d'euros pour rétablir la confiance entre les communautés et construire des sociétés multiethniques. Le ralliement de nombreux officiels à ce projet d'échange de territoire sonne donc comme un cruel désaveu pour les missions internationales déployées dans la région et réveille de mauvais souvenirs, ceux des noires années 1990, quand les dirigeants autoritaires serbes et croates voulaient se partager la Bosnie-Herzégovine. Parce que remettre en cause l'intangibilité des frontières, c'est rouvrir la boîte de Pandore des multiples et contradictoires revendications nationalistes qui agitent toujours les Balkans. Et cela pourrait avoir des répercussions immédiates dans plusieurs pays voisins, à commencer par la Bosnie-Herzégovine, divisée en deux entités depuis la guerre, est tiraillée par les velléités autonomistes des Serbes et des Croates. De même, cela pourrait relancer la vieille idée de Grande Albanie. Si les partisans de cette correction frontalière entre le Kosovo et la Serbie répètent à l'unisson que celle-ci doit être pacifique et négociée, dans les Balkans, beaucoup rappellent qu'il n'existe aucun exemple dans l'histoire d'échange de territoire n'ayant entraîné ni violence ni déplacement de population.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.
RFI se décline en